Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
La durabilité est essentielle pour garantir un équilibre dans les besoins actuels et ceux des générations futures. Un équilibre qui repose sur trois piliers principaux, économique, social et environnemental. Aujourd'hui, voir notre environnement disparaître participe à ce déséquilibre mondial. Et chers amis, pour en savoir plus, nous vous amenons cette fois-ci dans le désert de l'Ampoule, situé dans le nord-ouest du Sénégal, un joyau naturel connu pour ses dunes dorées et son écosystème unique. Cependant, cet environnement fragile fait face à plusieurs menaces. Et pour en parler, en savoir plus, nous sommes avec Julien Potron, directeur de NatBi Sénégal, une entreprise sociale démocratisant donc la technologie digitale et solaire dans les chaînes de valeur agricoles. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation.
Bonjour Monsieur Tonkara, merci pour l'invitation.
Alors d'abord parlez-nous un peu du désert de l'Ampoule qui constitue un des joyaux de l'écosystème sénégalais.
Effectivement, le désert de l'Ampoule, c'est un joyau, c'est l'un des plus petits déserts au monde, 18 km², qui se trouve sur la Grande Côte, donc entre Dakar et Saint-Louis. Et c'est un site mondialement connu, un site touristique, c'est presque un passage obligé quand on vient au Sénégal et visiter le pays.
Et aujourd'hui, donc, vous nous le disiez plus tôt, par rapport également aux différents échanges que nous avons eus au préalable, cette zone aujourd'hui est un peu menacée, notamment par rapport à une société minière et aussi aux activités autour de ce petit désert.
Alors effectivement, c'est même pas juste un peu, c'est totalement menacé puisque le désert est en face d'être totalement rasé. À l'heure où on se parle, il y a déjà une grande partie du désert qui a été avalée par une mine, donc une mine mobile, qui a une drague, c'est-à-dire un espèce d'aspirateur de sable qui va chercher des minerais à base de titanium, de dioxyde de titane, donc comme l'ilménite, le rutile, le zircone. Et donc c'est une mine française aujourd'hui qui sévit en fait sur la Grande Côte et qui progresse sur des dizaines de kilomètres. Et aujourd'hui, elle est arrivée dans le désert de l'Ampoule où elle est en train de tout simplement faire disparaître ce joyau et à côté évidemment de faire disparaître tous les champs maraîchers, les cultures agricoles qui sont dans la zone également.
Dans la zone également, mais aujourd'hui aussi également du point, également pouvez-vous d'abord nous faire un point aussi sur ces impacts financiers pour le Sénégal, parce que comme vous le dites, c'est l'un des plus petits déserts au monde, mais aussi qui, sur le plan écologique, mais aussi sur le plan financier, a des répercussions pour le pays.
Alors oui, c'est un désert qui, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais sur site, il y a des Australiens, des Canadiens, des Coréens, des gens qui viennent absolument du monde entier pour visiter ce désert, qui viennent même spécialement pour voir ce désert. Donc en termes touristiques, c'est un pôle d'activité énorme pour la zone. Et puis à côté, comme je le disais, on est dans la région des Niayes. La région des Niayes, c'est une région où il y a énormément d'eau qui reste en surface. Et donc c'est une région propice à la culture maraîchère et donc il y a dizaines de millions d'emplois qui gravitent autour de ces activités qui sont le tourisme et la culture maraîchère.
Et concernant cela également, est-ce que sur le plan financier, vous pouvez un peu revenir aujourd'hui sur ces répercussions que cette menace pourrait avoir dans la localité et aussi pour le Sénégal ?
Alors oui, on parle d'une mine dont l'État sénégalais est d'ailleurs actionnaire à 10%. Ça, c'est le code minier qui oblige ce type de mine à avoir l'État comme actionnaire. Et en contrepartie, l'État touche une redevance minière. Et puis évidemment, la mine paye aussi des taxes, même si elle a énormément d'exonérations. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'année 2022, ce sont les derniers rapports disponibles, la mine a rapporté un petit peu moins de 20 milliards donc de francs CFA, 30 millions d'euros à l'État sénégalais. Mais dans le même temps, on constate que les dégâts causés pourraient être bien plus importants, puisqu'on a des milliers d'hectares qui sont aujourd'hui a priori rendus infertiles. Et il y a également l'activité économique touristique qui est totalement impactée, qui va disparaître. Et en même temps, on a évidemment toutes les chaînes de valeur agricoles qui gravitent autour même de l'agriculture, hein, les fournisseurs de technologies dont je fais partie, hein, qui sont directement impactés. Donc on a tout un écosystème et la question économique, c'est de savoir aujourd'hui, hein, est-ce qu'il y a réellement un bénéfice pour l'État du Sénégal dans cette affaire?
Et par rapport aussi à cette même continuité concernant aujourd'hui cette affaire, la troisième aujourd'hui, c'est concernant également ces impacts environnementaux, notamment le problème de l'eau, parce que cela également a des impacts sur le cadre hydraulique.
Effectivement, on a une mine qui est en réalité une usine flottante, donc il y a un lac artificiel qui a été créé dans un désert. Hein. Donc dans des endroits, on est dans une zone sahélienne où on a l'eau qui est très peu disponible. On a accumulé peut-être 72 heures d'eau de pluie par an. Donc c'est des zones extrêmement arides. Et donc on tire de l'eau dans les nappes souterraines, dans les nappes de surface également, pour alimenter un lac qui permet à l'usine de flotter, donc d'avancer au fur et à mesure du temps. On est non seulement le Sénégal et le Sahel, mais je pense qu'au Maroc ou en Europe, on fait face à de grands, grands stress hydriques actuellement. Et ce n'est que le début, hein, par rapport au changement climatique. Et là, on vient mettre une mine dans un endroit où on a déjà un stress hydrique important et qui va devenir extrême. Alors, je tiens à noter que ces termes-là sont inscrits dans le rapport annuel de la mine. Donc, c'est la société Eramet française, hein, qui a inscrit ces termes, stress hydrique important. Et à partir de 2030, stress hydrique extrême dans la zone. Et on se demande comment une mine qui a conscience de ce potentiel dévastateur continue à travailler dans cet environnement en se posant la question du renouvellement des nappes dans une zone où il pleut très peu et une zone qui alimente 80% des légumes du pays. C'est-à-dire c'est la zone qui aujourd'hui fait manger le peuple sénégalais en termes de légumes. Comment on peut mettre une menace aussi importante sur une ressource aussi précieuse et qui deviendra de plus en plus précieuse, on le sait déjà, dans les années à venir. C'est une question qui reste posée et auquel on aimerait peut-être avoir des réponses.
Auquel on aimerait avoir des réponses, mais aussi, ce qui est sûr, c'est que cela pourrait avoir des incidences. C'est d'ailleurs le cas, notamment sur les impacts sociaux, culturels également. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, il y a une forte mobilisation locale, hein, depuis des années, hein, puisque la mine n'est pas nouvelle. Hein. Elle a commencé son activité à plus de 20 km de là où elle est actuellement, et donc elle a avancé le long de la Grande Côte, dévastant, totalement rasant des villages. On a des problèmes sociaux par rapport à ça. On a eu des problèmes il fallait déménager les populations, il fallait prendre des terres, donc il y a toujours des conflits qui ont lieu. Il y a également des grandes questions concernant des cimetières, hein, qui ont été rasés. Donc on a déplacé, mais comment déplacer un cimetière musulman? Honnêtement, il y a vraiment des questions qui blessent, qui heurtent les populations au plus haut point. Des populations qui vivaient dans des endroits, on peut dire paradisiaques, hein, en bord de mer, cultivant leurs champs, faisant pâturer leurs troupeaux avec de l'eau pure à disposition à 5 mètres de la surface. Et aujourd'hui, on les retrouve déplacés dans des endroits qui ont été construits pour eux dans des conditions qui sont absolument inacceptables, puisqu'ils ont de l'eau aujourd'hui qui est souillée. On ne sait pas si elle est potable ou pas, mais quand on regarde l'eau et qu'on n'arrive pas à la filtrer, on se demande depuis tant d'années comment ces populations peuvent rester dans ces conditions et comment on ne peut pas leur fournir de l'eau potable, tout simplement. Et donc, ce sont plein de questions. Hein. Le sujet est tellement vaste et touche tellement la dignité des populations locales qu'on a une colère sourde qui gronde depuis des années sur place. Et aujourd'hui, on est heureux que vous puissiez donner aussi de la lumière à ce type de sujet.
Et concernant cela aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a également des conséquences par rapport à cela sur le plan court et aussi long terme.
Alors, les conséquences, évidemment, on a des grandes questions, hein, puisqu'il n'y a aucune étude sociale et environnementale d'impact, hein, étude d'impact, qui a été publiée, hormis une étude qui date de 2005, donc pratiquement 10 ans avant le démarrage de l'exploitation, et qui fait 13 pages pour une concession minière qui s'étend sur 452 km². Et donc, depuis cette pré-étude, on va dire, aucun document n'a été publié concernant les impacts économiques, sociaux, environnementaux, culturels. Et donc, effectivement, on se pose la question de l'impact à court, moyen et long terme. Les questions se posent. On n'a pas de réponse. Hein. La ressource en eau, Qu'en est-il de la ressource en eau? Qu'en est-il des terres qui sont lavées, avalées? Seront-ils fertiles un jour pour pouvoir produire du légume comme elles le faisaient auparavant? Qu'en est-il des emplois touristiques? Qu'en est-il de l'écosystème maraîcher? On a énormément de questions auxquelles, évidemment, il n'y a pas de réponse, puisqu'aucune étude n'a été publiée, ou en tout cas, peut-être il y a des études qui existent, mais aucune n'a été rendue publique jusqu'à ce jour. Et concernant l'eau, qui est vraiment une bombe à retardement, je pense que même le niveau des nappes phréatiques, donc toutes les populations, et moi-même qui ai des pompes solaires dans la zone, on constate l'affaissement de la nappe, mais aucune information publique n'a été publiée sur ce sens. Et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a besoin d'avoir des réponses. Et ce qu'on appelle, nous, en tant que citoyens de la zone, c'est de faire un moratoire, c'est-à-dire de stopper peut-être les activités pendant un temps et de regarder justement ces impacts et d'évaluer le pour et le contre pour savoir dans quelles conditions la mine pourrait continuer ou pas en fonction des impacts à court, moyen et long terme. Ce sont des questions qu'on doit se poser avant de continuer des activités qui, a priori, d'après tous les indicateurs qui nous sont donnés, est absolument dévastatrice.
Et justement, dans cette dynamique, vous également qui œuvrez dans tout ce qui est énergie solaire et autres, et par rapport aussi à ce qui se passe actuellement dans la localité, avez-vous des retours concernant les autorités ou également les organismes qui œuvrent un peu dans le cadre de l'environnement, entre autres?
Alors, on a une forte mobilisation locale, hein. Il y a d'ailleurs le maire de la commune où se situe le désert de l'Ompoule, la commune de Diokoul, Monsieur Goragaï, qui a s'exprimé d'ailleurs ce week-end en larmes, hein, devant les médias, implorant les autorités au plus haut niveau de l'État d'intervenir le plus rapidement possible. Donc ça nous a tous touchés, hein, évidemment, ça touche les populations. On a un député, hein, l'honorable député Serine Abdulahat Ndiaye, qui nouvellement élu, hein, puisque l'Assemblée a pris siège il y a un peu moins de semaines,
Tout à fait.
qui a lancé une question au Parlement, une question écrite qui a été diffusée hier, transmise hier au gouvernement, donc on attend des réponses. Et puis évidemment, on appelle, hein, toutes les organisations nationales et internationales à se mobiliser pour avoir des réponses. Je rappelle que c'est une société dont l'État français est actionnaire à 27% et dont, a priori, certains actes ici ne respectent pas leur charte éthique qu'ils ont définie en France. Donc peut-être il y a aussi des enquêtes qui pourraient avoir lieu de l'autre côté, hein. Je veux dire, la mobilisation devrait être à tous les niveaux, puisqu'il y a peut-être des responsabilités partagées si il s'avérait qu'il y ait des choses illégales ou autres qui aient eu lieu. On ne sait pas encore, mais on aimerait avoir des réponses.
On aimerait avoir des réponses, notamment qu'aujourd'hui le Sénégal s'inscrit dans l'horizon 2050, dans tous les plans, bien évidemment, étant notamment plutôt sur le plan environnemental aussi. Le stress hydrique qui serait aussi une menace pour le Sénégal, comme il est déjà pour beaucoup de pays. Et c'est pour cela qu'il est important de revoir la situation dans ce désert mythique de l'Ampoule, du Sénégal. Et pour cela, nous étions aujourd'hui avec, bien évidemment, Julien Potron, directeur de Nadbi Sénégal, une entreprise donc sociale, démocratisant, qui œuvre dans la technologie digitale et solaire dans les chaînes de valeur agricole. Merci encore à vous, Julien.
Merci, monsieur Tunkara. Bien des choses. Merci beaucoup.
Et merci également à vous, chers auditeurs, pour la durabilité de votre confiance. On se retrouve pour un prochain numéro.